are powerful.
We run this mother.
La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante. Écrivaine, dirigeante, rabbine, femme politique, photographe ou actrice. Et ce samedi, direction le quartier juif du Marais. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
Vous pouvez entrer.
Merci.
Vous pouvez entrer.
Bonjour Delphine Orvilleur.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
C'est une joie.
Donc voilà. On est dans un appartement dans le 4e arrondissement de Paris, c'est ça, dans le Marais.
Ouais.
C'est un quartier que vous connaissez bien.
Ouais, c'est un quartier où on vit depuis longtemps. Enfin, moi, je suis revenue des États-Unis il y a un peu plus de 10 ans, où j'ai fait mes études, et on s'est réinstallé ici. Et moi, j'adore ce quartier qui est comme un village.
Un quartier juif.
Ouais, c'est un quartier entre autres juif, mais c'est vrai qu'il y a toute une histoire juive dans le quartier. Ici, on est exactement à l'intersection entre le quartier gay et le quartier juif. C'est marrant, c'est un endroit de rencontre, de passage. Et puis, il y a encore un peu moins, mais il y a encore un peu une ambiance un peu Rabbi Jacob, parfois. Un peu, voilà.
Vous savez faire la danse de Rabbi Jacob ?
Ouais, un petit peu, je sais la faire. On l'a fait avec mes enfants assez régulièrement devant la télé. Ouais, voilà, je peux. Ouais.
Je suis vraiment très doué.
C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Ah,
appelez-la Madame le Rabbin ou Madame la Rabbine, c'est comme vous voulez, les deux lui vont. Il y en a 3 comme elle en France, 3 seulement. Une espèce rare donc, dans un monde réservé aux hommes. En 10 ans, elle est devenue la porte-voix du judaïsme libéral en France. Elle ne cesse d'interroger la place des femmes dans les religions. Elle défend la tolérance, la raison, la nuance. Ses conférences font sale comble à rendre jaloux ses détracteurs qui disent d'elle qu'elle serait la Rabbin des people. Elle s'en moque et nous a reçus dans un appartement chaleureux rempli de livres et de jeux d'enfants sur un fauteuil un peu élimé par les griffes du chat. Elle a un sourire avenant et elle parle vite. Delphine Orvilleur est notre invitée. Si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi ?
Je sursaute un peu, c'est pas du tout comme ça que je me serais qualifiée. Je trouve toujours la puissance, je sais pas, c'est un adjectif que je trouve un peu suspect, toujours. Moi, je trouve qu'il y a une certaine grâce de l'impuissance. Et je trouve que les femmes, souvent, elles ont été du côté de l'impuissance et que d'une certaine manière, elles ont trouvé la force. Donc c'est un adjectif dans lequel je me reconnais pas vraiment.
Chaque fois que je pose la question, ça déstabilise les femmes comme si elles avaient du mal avec le concept d'être puissante. Alors que quand vous dites à un homme, vous êtes un homme puissant, il vous fait un sourire heureux. Et j'ai l'impression que les femmes ont un problème avec l'idée d'être puissante.
Je sais pas, c'est comme si on nous avait appris ou qu'on avait intégré très tôt que c'était suspect, une femme puissante, que c'était quelque chose de subversif. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui souffrent de ce célèbre symptôme de l'imposteur, l'impression qu'on n'est pas vraiment à notre place ou qu'il y aura quelqu'un de plus habilité que nous à se trouver là où on se trouve. Voilà, on est tous un peu des imposteurs, mais c'est un mot qui n'existe pas au féminin.
Non, c'est ça, on ne dit pas imposteuse.
Non, peut-être qu'il faudrait l'inventer, faudrait à l'Académie française.
On en parlera. Mais en fait, l'idée de puissance des femmes, et peut-être le malaise, c'est aussi l'idée de l'ambition, peut-être. Là aussi, un homme ambitieux, c'est quelque chose de bien, une femme ambitieuse, c'est quelque chose de suspect. Ça vous a pas étonné, ça ?
Si, mais comme tous ces mots qui, dès qu'on les met au féminin, deviennent étrangement sexualisés, ou suspects, ou subversifs, il faut du temps pour s'en rendre compte. C'est étrange comme le langage nous construit. Et en fait, on a intégré tellement de choses. Moi, je me rends compte tellement souvent, ayant des garçons et des filles, toute féministe que je suis, impliquée dans ces questions d'égalité homme-femme, je me suis surprise en plein d'occasions, quand ils étaient plus petits, à me reprendre parce que je félicitais mon fils en lui disant « qu'est-ce que t'es fort ?» et mes filles en leur disant comme tu es mignonne, et des clichés les plus caricaturaux, les plus... Je me suis surprise moi-même à être tout simplement habitée par ce langage et par ces codes. On est tous, voilà, tous, c'est à l'œuvre malgré nous.
Je demande à chaque fois que vous me rameniez un objet lié à la puissance. Qu'est-ce qui symboliserait la puissance selon vous?
C'était un peu casse-tête pour moi. Alors, j'ai compris que vous me demandiez un objet qui représentait pour moi la puissance des femmes ou la puissance féminine. Et alors, j'ai trouvé sur mon étagère tout à l'heure, vous allez trouver ça peut-être grotesque, une pelote de laine. Pourquoi j'ai choisi cet objet?
Ah oui, effectivement, là, tout de suite, la puissance, c'est pas évident. Mais alors, pourquoi?
Parce que je crois que les femmes, à tout plein de moments de leur histoire, quand elles n'avaient pas de puissance, justement, de puissance politique, elles étaient relayées à la sphère de l'intériorité, à la sphère de la couture. En réalité, on pense au personnage de Pénélope qui coud et qui découd toute la nuit, et c'est son intrigue à elle, c'est la façon dont elle va manipuler le monde, c'est sa seule action politique dans l'histoire d'une certaine manière. C'est marrant que en anglais le mot pelote, plot, ça veut dire justement l'intrigue. En fait, les femmes, elles ont été soupçonnées tout au long de leur vie d'être dans l'intrigue, de manipuler, d'être dans la ruse. Et moi, je crois que c'est à la fois vrai ou faux. C'est faux parce que, bien entendu, c'est un cliché misogyne d'affirmer que les femmes manipulent le monde, mais c'est vrai dans le sens où je crois qu'elles n'ont eu aucune puissance politique, justement, si ce n'est dans les moments où elles ont dû ruser avec l'histoire. La puissance féminine a dû intriguer pour avoir du pouvoir, parce que naturellement, elle n'allait pas en avoir. Et je crois que, pour ce qui est de mon domaine, le domaine de la pensée religieuse, tout au long de l'histoire, les hommes ont eu le texte, et les femmes, elles ont eu le textile, et qu'elles ont dû composer avec ça, et trouver moyen d'avoir accès au pouvoir autrement. Voilà.
Au fond, pour vous, une femme puissante, c'est une femme savante.
Oui, je crois que dans tous les systèmes de pensée, si on n'a pas accès au savoir, on n'a pas accès au pouvoir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas accès au texte, à l'étude, au logos, au savoir, à la connaissance, vous êtes condamné à n'avoir aucun accès au pouvoir. Et je crois que c'est précisément pour ça qu'on tient les femmes à distance des textes, en tout cas pour ce qui est du monde religieux.
Delphine Horwiller, vous allez nous en parler dans un instant, vous allez nous raconter votre vie et comment vous êtes arrivée à devenir rabbin, puisque c'est un parcours assez sinueux, ça n'a pas été une évidence, vous allez nous le raconter. Mais d'abord, je voulais savoir, rabbin, c'est un métier ?
Oui, rabbin, c'est un métier, mais c'est un métier qui dépend de celui qui vous reconnaît rabbin. C'est-à-dire que moi, j'ai un titre de rabbin qui m'a été conféré par une école rabbinique, mais en réalité, un rabbin, c'est juste quelqu'un que un groupe ou une communauté reconnaît comme pour son érudition. Et donc, dès lors, vous devenez le rabbin de quelqu'un, dans la mesure où on reconnaît que vous avez un pouvoir à guider une communauté par votre savoir.
Mais vous êtes payé pour être rabbin ? On est payé ? On a un salaire fixe.
On a un salaire d'une communauté qui vous choisit comme rabbin et qui vous embauche comme rabbin.
Et vous êtes en CDI rabbin?
J'ai un CDI sur lequel il y a marqué rabbin, ancienneté rabbinique.
C'est vrai?
Oui. C'est un métier presque comme un autre.
Est-ce que c'est vrai que vous glissez ça parfois dans vos sermons?
Je vais me confesser, ce qui n'est pas quelque chose de très juif.
Non, vous êtes catho, c'est le moment catho de l'interview. Donc, Jean-Jacques Goldman dans vos sermons.
Oui, c'est devenu un peu une blague pour mes amis, pour les membres de ma communauté, que je cite très souvent Jean-Jacques Goldman. Moi, je mets souvent de la culture pop dans mes sermons, parce que je pense qu'il ne faut pas déconnecter le monde de la réflexion et de la pensée religieuse, de ce qui est le monde dans lequel on vit, tout simplement. Et puis, c'est vrai que Jean-Jacques Goldman a joué un rôle particulier, comme une espèce de référence musicale avec laquelle notre génération a grandi, sans aucun doute. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer un jour.
Oui, c'est rare
à la boulangerie, tout près de, il y a quelques années. Je raconte souvent cette histoire parce que je me dis qu'un jour, peut-être, je sais pas, il se souviendra de cette histoire qu'on s'est croisé un jour, quelques instants.
Vous lui avez parlé?
Dans une boulangerie, jamais.
Donc, ah, vous avez pas osé?
Si, on a échangé ce jour-là.
Vous lui avez dit, je suis fan?
Je lui ai dit que je me souviens très bien, je lui ai dit, si je vous dis que j'aime beaucoup ce que vous faites, ça fait très... Et il m'a dit, ça fait très plaisir. C'était charmant,
chic,
élégant, voilà. Et donc voilà, maintenant je lui dis que très souvent, il habite mes sermons. Je crois pas que ça a été, que c'est dans ces buts-là qu'il est composé, ces chansons d'être citées dans les synagogues, les églises ou les mosquées de France. Mais voilà, très souvent, à l'appui de mes sermons rabbiniques, je place discrètement des versets goldmaniens.
Il y a « Je marche seul », mais il y a « Envole-moi », par exemple.
Oui, et puis il y a surtout dans les chansons de Jean-Jacques Goldman, attends, je vais en faire une exégèse rabbinique, il est très souvent question de départ.
Vous avez une minute pour me faire un sermon sur Jean-Jacques Goldman.
Voilà, le Talmud.
Avec Jean-Jacques Goldman. Le Talmud par Jean-Jacques Goldman par Delphine Envillard.
C'est que de très nombreuses chansons de Jean-Jacques Goldman parlent d'une mise en route. Là-bas, on ira. Toutes ces chansons disent qu'on devient soi-même quand on quitte le lieu où on est né. Qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un départ nécessaire qui vous permet de devenir qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose, d'abord, une thématique qui me tient à cœur, mais je crois que c'est une thématique biblique, en réalité. Ou c'est une thématique spirituelle tout court. Tous ces personnages importants du texte, c'est des gens qui sont partis de chez eux et qui savent que c'est dans le voyage que se fait la vraie rencontre spirituelle.
Parce que vous, il vous a fallu partir ailleurs pour vous trouver, pour trouver votre place, pour trouver votre vocation. Delphine Horviller, encore une question sur vos enfants. Vous venez d'en parler tout à l'heure. Avoir une maman rabbin, c'est pas bizarre pour eux? Ils disent pas, mais maman, pourquoi t'es pas normale? Pourquoi t'es pas comme les autres mamans? Pourquoi t'es rabbin? C'est bizarre, non?
Je crois que mes enfants, il leur a fallu un certain temps pour comprendre que c'était pas un métier normal ou que c'était un métier atypique. Étant enfant, tout petit, le métier de leur maman est le métier de leur maman. Je les souviens très clair un jour. Mon fils, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire dans la vie. Il m'a dit pompier ou Superman. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi pas rabbin? Et là, il a soufflé. Il m'a dit, c'est vraiment un métier de fille. Et j'ai trouvé ça incroyable sur le moment que pour mon fils qui avait 5 ou 6 ans à l'époque, bien évidemment pour lui c'était un métier de fille parce que c'est pas un métier qui incarnait pour lui la virilité, c'était le métier de sa maman. Et donc je crois que pour mes enfants il a fallu un certain temps pour comprendre que effectivement c'était atypique. Maintenant je crois que ils en sont assez fiers, ils le disent, surtout mes filles, en bien des circonstances. Elles aiment beaucoup parler de ça.
Elles disent quoi, maman et rabbin?
Que voilà, considèrent que c'est un métier original. Même si la plus petite sait pas exactement ce que ça veut dire, elle pense, quand je lui ai demandé un jour qu'est-ce que c'est pour toi être rabbin, elle m'a dit c'est être chanteuse en fait. Elle me voit chanter à la synagogue, donc elle pense que c'est plus proche d'un métier comme ça de chant. Donc chacun a sans doute son interprétation de ce dont cette fonction relève. Mais voilà, récemment mon fils est devenu bar mitzvah, donc il a atteint un âge où il a fait l'office à mes côtés à la synagogue, et ça a été une émotion immense pour moi d'être à la fois la maman et le rabbin en cette occasion. Je me suis dit que voilà, dans l'histoire, ça avait sans doute pas été commun, il n'y a pas eu beaucoup de ce genre de partage. Finalement, c'est assez récent à l'échelle de l'histoire. Le jour où j'ai pris mes fonctions à la synagogue à Paris, dans le 15e arrondissement, dans ma synagogue, j'étais très enceinte à cette époque de ma fille, et j'avais dit dans mon discours d'intronisation que c'était finalement assez rare à l'échelle de l'histoire que les rabbins partent en congé maternité. Mais voilà, on vit ces dernières années plein de ces moments comme ça qui sont d'une certaine manière des inédits à l'échelle de l'histoire, mais qui sont sans doute, et je l'espère, en train de devenir la norme. My girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. 'Cause I depend on me if I want it. The watch I'm wearing, I buy. The house I live in, I buy. The car I'm driving, I buy. I depend on me, I depend on me. All the women who independent, throw your hands up at me. All the hunters who making money, throw your hands up at me. Do what I want, live how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet. Baby.
Independent Woman, c'est Beyoncé avec les Destiny Child.
Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
Delphine Horviller, comment votre mari a réagi quand vous lui avez dit « je vais devenir rabbin » ? Il est tombé de sa chaise ?
Ouais, je crois qu'il l'a pas vraiment cru sur le moment où on s'est rencontrés quand je m'engageais dans les études rabbiniques. Et je crois que pour lui, c'était assez inaudible. C'est quelque chose qui, sur le moment, il pensait que c'était sans doute une forme de plaisanterie. Lui a grandi d'ailleurs, comme moi, dans un monde où il n'y avait pas de référent rabbinique au féminin. C'était bien évidemment une fonction
donc il vous a pris toute
masculine.
Un trip.
Ouais, il a trouvé que j'étais très originale, sans doute. Je sais pas quel rôle ça a joué dans la séduction qui s'est opérée. Mais voilà, en fait, je pense que c'était très, 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 très surprenant pour lui. Voilà, je me souviens que pour l'anecdote, hein, il a dit quand il a annoncé à sa maman qu'on allait se marier. Je me souviens qu'elle en parlait autour d'elle. Elle disait « Mon fils va épouser un rabbin ». Et elle me disait que très souvent, les gens lui disaient « Ah bon, il y a des rabbins homosexuels ». Parce que pour les gens, c'était quand même plus logique d'imaginer ça qu'une femme rabbin. En fait, c'était pas... Aujourd'hui, je pense que les choses changent tout de même. Ça fait maintenant 10 ans que je suis rabbin en France. J'ai l'impression que beaucoup de gens, quand même, maintenant, savent qu'il y a des femmes rabbins.
Voilà, mais non, mais aujourd'hui, vous êtes devenue une star, Delphine Horviller. Et oui, ça vous fait rire, mais oui. Oui, vous avez le portrait dans tous les magazines, même à l'étranger. Vous êtes devenue une star. Et comment il le vit, lui, votre mari, qui a son travail, qui est consultant, qui est par ailleurs le maire du 4e arrondissement de Paris? Est-ce que c'est facile pour un homme d'accepter la réussite de sa femme?
Je sais pas du tout, faudrait lui demander, mais je crois que c'est, j'ai l'impression, et j'ai beaucoup de gratitude pour lui, ce sujet-là, c'est j'ai jamais eu l'impression qu'il entravait mon parcours, finalement. Il m'a rejoint aux États-Unis parce que je devais étudier aux États-Unis, et quand il a fallu qu'on rentre en France, finalement, il m'a laissé, d'une certaine manière, prendre le lead de ce retour.
Il a accepté que vous preniez la lumière plus que lui.
J'ai eu l'impression qu'il le vivait pas vraiment comme une menace, ce qui est sans doute pas évident, même s'il y a eu des moments où, je me souviens notamment à plusieurs occasions, on a été invités dans des dîners où lui se retrouvait en étant monsieur Horviller, donc en ayant perdu d'une certaine manière aux yeux des gens son nom de famille, puisque c'est mon nom de jeune fille, Horviller. Moi, j'ai jamais changé de nom. Et c'est intéressant, j'ai souvent pensé dans ces moments-là à Antoine Veil. C'est-à-dire, je pense qu'il a souvent été dans sa vie
Monsieur Simone Veil,
même si c'était son nom à lui. Tout à coup, vous êtes là en qualité de peut-être accompagnant, ce qui n'a pas été, ce qui est sans doute pas facile à vivre pour un homme qui aurait des repères beaucoup plus traditionnels.
Vous me faites la transition, Delphine Horviller. Vous êtes née le 8 novembre 1974 à Nancy. Ce jour-là, alors que vous voyez le jour, à Paris, il y a une femme qui s'exprime ce jour-là, précisément, à l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
Simone Veil. Simone Veil qui défend sa loi sur l'IVG le jour de votre naissance. Est-ce que vous croyez aux signes?
En tout cas, je me suis souvent dit, en écoutant ce discours qui, à vrai dire, me bouleverse à chaque fois que je l'entends à nouveau, que c'est comme si Simone Veil s'était...
Vous avez les larmes aux yeux.
Ouais, je trouve que c'est bouleversant ce moment où elle commence son discours en disant « Je m'excuse de prendre la parole devant cette assemblée d'hommes » parce que elle dit très bien cette phrase, de quelle façon, en tant de circonstances dans l'histoire, les femmes ont commencé par s'excuser, avant de s'imposer. Et moi, je me suis souvent dit que Simone Veil, c'était comme dans les contes, vous savez, ces fées qui se penchent sur le berceau des enfants qui naissent. Moi, j'ai eu le sentiment qu'elle s'était penchée sur notre berceau, le berceau de notre génération, vraiment de toutes ces filles nées dans les années 70, pour que nous soit murmurée une promesse d'autre chose pour nos vies. C'est-à-dire que la promesse, tout à coup, qui est murmurée, qu'on va pouvoir choisir, que quelque chose de l'ordre d'un pouvoir choisir, d'un pouvoir sur nos corps, quelque chose inédit à l'échelle de l'histoire, est la bénédiction de notre génération.
C'est votre modèle absolu?
Je ne sais pas si c'est mon modèle absolu. Je sais qu'elle a joué un rôle considérable dans ma vie et pour plein de raisons. Ne l'ayant pas connue directement, d'ailleurs.
Vous l'avez jamais rencontrée?
Non, je ne l'ai jamais rencontrée. En fait, ma rencontre avec Simone Veil, physiquement, c'est le jour de son inhumation, puisque j'étais aux côtés de sa famille au moment où on prononçait le Kaddish, la prière du deuil dans le judaïsme. Ses fils m'avaient demandé de me tenir aux côtés du grand rabbin de France et à leur côté à ce moment-là. Et en fait, pour moi, elle a joué de mille manières le rôle d'une guide pour plein de raisons, et comme femme, et comme juive, et comme survivante, et comme femme qui prend la parole. Et puis elle incarnait la résilience, la capacité à se relever, la capacité aussi à s'engager pour un combat universel, qui est quelque chose que je trouve, voilà, extraordinaire et qui me parle, plus le temps passe, de plus en plus, dans un temps d'empathie sélective et de compétition victimaire, qu'il y ait des gens comme Simone Veil qui aient vécu ce qu'ils ont vécu pour ce qu'ils étaient et qui sont prêts à se lever pour d'autres douleurs, pour d'autres souffrances. C'est quelque chose d'incroyablement inspirant. Dans mon dernier livre, j'ai choisi de dédier donc le livre à Simone et Marceline, parce qu'en réalité, à elles deux, elles incarnent, à mon sens, quelque chose de l'ordre de tout ce qu'une femme peut aspirer à être. Et je trouve ça extraordinaire qu'elles aient eu cette amitié.
Marceline, c'est Marceline Loridan Evans, qui nous a quittés aussi il y a quelques mois. Écoutez-la.
Pourquoi tout d'un coup les Juifs, on ne sait pas pourquoi, mais on sait très bien pourquoi. On sait très bien pourquoi on les a assassinés. On sait très bien. C'est une vieille histoire chrétienne. Elle date de 2000 ans. Il ne faudrait pas l'oublier quand même. Il ne faudrait pas faire semblant que le monde a changé. Il n'a pas tellement changé encore. Il est en train de changer dans le pire, dans la barbarie la plus stupide, la plus totale, l'obscurantisme honteux dont vous devriez tous et nous tous avoir honte. Si c'est ça qu'on peut laisser à des enfants que je n'ai pas voulu avoir, ben mince alors.
Que vous n'avez pas voulu avoir à cause de l'antisémitisme, écrivez-vous.
Oui. Oui, pourquoi mettre un enfant au monde pour qu'il revive la même chose, dans des conditions plus ou moins différentes, mais tout à fait pareilles? Jusqu'où on va aller? Jusqu'à quelle mort on va aller?
Marceline Loridan, au micro de Patrick Cohen, c'était en 2015. Elle est dure. Elle est très dure dans ce qu'elle dit.
Mais elle est...
Ça vous choque pas? Ça a choqué, ce moment-là a choqué, a eu beaucoup de réactions.
Oui, moi je me souviens de l'avoir entendu en direct et qu'on avait l'impression que, d'ailleurs on l'entend dans le silence de Patrick Cohen, il y a un moment de blanc comme un ange passe, je crois qu'on dit en français cette expression. En fait, Marceline, elle avait ce talent pour faire passer les anges. Elle disait des choses sans filtre. Elle avait une liberté que, à vrai dire, moi, j'ai connue chez personne d'autre. Elle avait la liberté de sa coiffure. C'était une femme aux cheveux rouges et bourriffés. Là où Simone Veil était incarnée par son chignon, à elles deux, leurs deux coiffures disaient ce qu'elles étaient.
Et c'est très étonnant, cette amitié entre la... Parce que Simone Veil, c'est aussi la bourgeoise, conservatrice... Et Marceline, qui a aimé les hommes, qui a pas écrit sur le corps, qui a écrit sur le sexe, qui était libérée. C'est déjà bizarre de les imaginer toutes les deux buvant le thé ou se bourrant la gueule. Je sais pas ce qu'elle faisait. Mais ça vous a pas étonné? C'est un peu deux visages de femmes très différentes.
Mais à la fois qui se complétaient de façon tout à fait étrange. Parce que moi, je pense souvent au fait que Simone Veil, avec son chignon et son sens du devoir, finalement, elle a donné aux femmes la liberté. Et Marceline, avec sa liberté folle et sa passion de l'amour et du désir, personne comme elle ne nous a enseigné le devoir. Et donc, à elles deux, dans leur façon d'être, elles ont su nous raconter une espèce d'histoire du féminin et de sa puissance. Parce qu'en réalité, tout au long de l'histoire, les femmes, elles aspirent, me semble-t-il, à être à la fois, en tout cas, moi j'aspire dans ma vie, à être à la fois Simone et Marceline. Et je crois que voilà, à elles deux, elle raconte cette histoire de façon incroyable. Puis j'ai des souvenirs de Marceline, parfois totalement, je peux raconter ça maintenant, j'étais à côté d'elle au moment aux Invalides, dans la cour des Invalides, pendant la cérémonie pour Simone Veil, et à un moment donné, elle s'est penchée vers moi, elle m'a dit, est-ce que tu crois que je peux allumer un pétard? Et ça, c'était
90
Marceline.
Ans.
Voilà. C'était Marceline, c'était sans limite, c'était
sans filtre.
Et je lui ai dit, je crois que toi, personne ne pourra rien dire. Voilà.
Elle a allumé le pétard.
Mais c'était un moment où elle avait su ramener, alors ça peut paraître grotesque, mais qu'est-ce que ça racontait cet épisode, que elle a choisi, Marceline, de faire gagner la vie en toutes circonstances, même quand le cercueil est devant elle et même quand la mort a toqué à la porte. Elle a choisi qu'elle ferait gagner la vie en toutes circonstances.
Votre prénom et votre nom? Delphine Horviller.
Votre profession ?
Je suis rabbin.
Ah, pardon, vous ne correspondez pas tout à fait à l'image classique du rabbin.
On peut dire bonjour madame le rabbin, bonjour madame la rabbine, comment dit-on ?
Vous voulez pas qu'on vous dise rabbine ?
Malheureusement, on pense souvent que c'est la femme du rabbin. Donc peut-être que mon mari est la rabbine, mais en tout cas,
c'est
on
m'appelle mari plutôt.
Est-ce qu'il faudrait vraiment féminiser ce mot rabbin ?
Delphine Horviller, madame le rabbin.
Je voudrais parler de cette révolution qui consiste aujourd'hui à avoir des femmes rabbins.
Une partie des juifs orthodoxes ne vous reconnaissent pas comme femme rabbin.
Vous avez été désignée par le magazine L'Express comme une des 9 intellectuelles françaises qui assurent la relève.
Enfin bref, vous êtes rabbin et vous êtes écrivain également.
Delphine Horviller, en tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme chez Grasset.
Le titre pourrait laisser penser que c'est un manuel pour les nudistes. Mais c'est tout le contraire.
Qui aurait pensé qu'il y aurait aux États-Unis des centaines de femmes rabbins et en France une, deux, trois? Vous êtes trois maintenant.
Une des 3 femmes rabbins en France. Juste un mot sur votre parcours, parce que, pardon, mais il est vraiment étonnant. Vous avez été étudiante en médecine, chercheuse, vous avez fait du mannequinat pour payer vos études, vous avez été journaliste à France 2.
Une ancienne de France 2, je le dis tout de suite, ancienne journaliste de France 2.
Explication avec des énormes.
Alors on dit quoi, madame le rabbin, madame la rabbine, on dit quoi en vrai ?
J'ai pas de religion là-dessus, en fait. Je me rends compte que pendant longtemps j'ai dit madame le rabbin, parce que effectivement je trouvais que les gens, quand on disait rabbine, entendaient femme du rabbin, comme ça avait été le cas pendant longtemps. J'ai changé d'avis sur la question parce que je me rends compte que dans ma synagogue, tous les enfants disent rabbine, et pour eux il n'y a pas de confusion. Ils ont tout simplement toujours connu une femme rabbin, et donc c'est naturel pour eux de féminiser la fonction. Donc c'est une question que je me pose plus.
Donc vous vous en foutez, rabbin, rabbine,
voilà,
peu importe le flacon. Alors on dit donna e mobile en italien, les femmes sont mouvantes, les femmes sont changeantes. Vous, qu'est-ce que vous l'avez été ? Parce que vous avez mis du temps à vous trouver. Donc effectivement, on vient de l'entendre, vous avez commencé par des études de médecine, puis ensuite vous avez été journaliste, mannequin, j'ai lu. Et jusqu'à aboutir à être rabbin, pourquoi tous ces allers-retours, tous ces parcours sinueux pour vous trouver ?
Moi, je suis toujours impressionnée par les gens qui savent ce qu'ils veulent faire, très jeunes. Moi, j'avais besoin de faire un long parcours pour voir de quelle manière les morceaux du puzzle allaient s'emboîter les uns avec les autres. Je suis partie vivre en Israël quand j'avais 17 ans, parce que je cherchais une voie autre. Je voulais, voilà, rencontrer autre chose. Je pensais devenir médecin. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que non, c'était une voie possible, mais c'était pas ma voie. Après, j'ai fait
votre
du journalisme.
Votre grand-père vous dit, quand vous voulez faire médecin, votre grand-père vous dit, c'est pas pour toi. T'imaginais autre chose.
Oui, j'imaginais autre chose pour toi. Ça a été une phrase très étrange parce que mon grand-père n'a pas voulu me dire ce qu'il avait envisagé pour moi. Il m'a juste laissé avec cette question en suspens et en fait, il m'a fallu des années pour comprendre à quel point cette phrase de mon grand-père avait été une chance incroyable parce que lui m'avait dit j'aurais imaginé pour toi autre chose et en fait, il m'avait donné la clé à ce moment-là, pour imaginer pour moi-même autre chose. Et donc, j'ai fait des demi-tours, j'ai changé de pays, j'ai changé de vie, j'ai changé de carrière, j'ai fait plein de petits boulots. Alors, les gens me parlent toujours, bien évidemment, du mannequinat, ce qui a été totalement anecdotique dans ma vie, parce que j'ai fait plein de petits boulots, j'ai été babysitter et serveuse dans des restaurants, et j'ai vendu des vêtements comme plein de gens pour payer leurs études. Mais on me parle souvent du mannequinat. D'ailleurs, c'est très drôle, je ne sais pas si c'est drôle, c'est que quand on tape mon nom, même sur Google aujourd'hui, les gens me disent que c'est le premier mot qui apparaît à côté de mon nom, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéresse à ça, comme si ça avait joué un rôle considérable. Ce qui d'ailleurs dit quelque chose de ce à quoi on renvoie si souvent les femmes, à leur corps, à une question physique. Moi, j'ai eu l'impression d'explorer plein de directions et que c'est seulement vers l'âge de, 27, 28 ans, au moment où je me décide à m'engager vers la voie rabbinique, que je comprends comment ces différents morceaux du puzzle peuvent s'emboîter les uns avec les autres et pourquoi j'avais besoin de faire autant de détours. Voilà, moi
mais
je crois beaucoup à la fortune.
À quel moment on se dit c'est ma voix, c'est celle-là. Là, je me trompe pas.
Jamais. En fait, moi je.
C'est-à-dire, vous allez encore changer.
Je crois que, en fait, on peut jamais se dire ça y est, c'est ma voix. En fait, il se trouve que j'ai trouvé dans le rabbinat ce que j'avais essayé de trouver dans bien d'autres directions ailleurs et qui, d'une manière, j'avais besoin de passer par ces autres lieux, ces autres moments, ces autres temps de ma vie, de faire ces explorations et ces voyages pour arriver à cet endroit. Mais J'espère ne jamais me raconter ma vie comme étant un « ça y est, c'est trouvé, ça y est, je suis arrivée ». Je crois que je me méfie de toutes les zones de sédentarisation dans mon existence. Je crois que c'est...
Pourtant là, vous y êtes arrivée. Je veux dire, quand on tape votre nom depuis quelques mois, depuis quelques années, oui, vous êtes devenue une référence, vous avez de l'influence, vous avez, je ne sais pas si on peut dire du pouvoir, mais en tout cas une forme de puissance.
Et... Disons que j'ai gagné sans doute une reconnaissance dans ce métier depuis quelques années, mais moi je ne me vis pas comme étant arrivée. Et j'aime l'idée que ça pourrait encore m'emmener ailleurs. Il se trouve que j'ai trouvé dans le rabbinat de mille manières des choses que j'avais cherchées ailleurs, à la fois dans des études de médecine et dans le journalisme, c'est-à-dire quelque chose qui est au cœur de la fonction rabbinique et de l'ordre de l'écoute, mais ce qui est aussi votre travail, c'est comment est-ce que dans ce face-à-face avec l'autre, on est capable d'accueillir le récit de l'autre comme un texte sacré.
Donc là vous êtes en train de nous annoncer que vous allez être psy dans une prochaine vie, c'est ça, ça
va être... Mais les métiers ne sont pas très, sont finalement pas très loin. Moi, mon meilleur ami psychanalyste, je parle souvent de psychanalyse et les gens d'ailleurs pensent très souvent que j'ai fait une psychanalyse, ce qui n'est pas le cas, mais parce que le monde que j'ai investi est peut-être proche de celui de la psychanalyse, dans le sens où c'est un monde où on fait parler les silences.
Delphine Horviller, vous êtes une femme ambitieuse.
Je ne sais pas comment définir ce mot, si on entend par ambitieuse le fait que j'ai du mal à renoncer à mes rêves. Alors oui, je ne vais pas citer Jean-Jacques Goldman pour vous dire ça, mais c'est vrai que je pense que j'ai eu de la chance dans la vie de ne pas renoncer à mes rêves et d'avoir des gens autour de moi qui m'ont permis de ne pas y renoncer, parce que ça ne se fait jamais tout seul. Ça, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé changer de chemin, changer de voie, me réinventer, d'avoir une famille qui m'y a invitée.
On va écouter l'extrait d'un film qui est, je crois, votre film de chevet. Je ne sais pas si on dit film de chevet, mais enfin, extrait.
Books for women are over here. Novels, very romantic.
I'd like to buy this one, please.
Sacred books are for men.
Why?
It's a law, that's why.
Where is it written?
Never mind where, it's a law.
Well, if it's a law, it must be written somewhere. Maybe in here, I'll take it.
Miss, do me a favor. Do yourself a favor. Buy a nice picture book.
Girls like picture books.
Extrait de Yentl avec Barbara Streisand, qui est un film de 1983 qui raconte l'histoire d'une jeune Polonaise juive en Pologne au début du XXe siècle, qui est obligée de se transformer en garçon pour étudier la Torah parce que c'est interdit aux filles. Vous voyez ce film à quel âge et pourquoi c'est une révélation ?
Je le vois, je crois, à sa sortie, donc j'ai pas 10 ans encore. C'est un film sur la transgression, voilà, c'est un film sur la transgression. Et maintenant que j'y repense aussi, c'est un film sur le rôle des parents et des grands-parents dans les rêves des enfants. Parce que finalement, Yentl, la chanson la plus célèbre dans ce film, c'est une chanson qui a été composée par Michel Legrand, où elle chante « Papa, can you hear me ? Papa, can you see me ?»«
Papa, can you hear me ?» Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night?
En fait, elle parle à son père. Et en fait, on comprend très bien dans ce film que c'est son père qui lui a donné toutes les clés. C'est cette présence masculine dans sa vie qui l'a autorisé à aller de ce côté-là, d'une frontière interdite. Et je crois que c'est le cas dans la vie de beaucoup de femmes qui se sont autorisées quelque chose. Bien souvent, elles se le sont autorisées parce qu'il y a eu un homme qui les a autorisés. C'est étrange de dire ça.
C'est quel homme qui a compté?
Moi, je crois qu'incontestablement, mon grand-père a joué un rôle très important comme pilier de ma construction. C'était comme une présence, un peu comme un patriarche dans ma vie, une présence à laquelle je me suis beaucoup référée enfant. Il a placé sur moi beaucoup, d'une certaine manière, d'espoir, et donc j'ai transféré ses attentes vers un avenir possible.
Ce film de Barbara Streisand, dès 1983, raconte aussi, au fond, finalement, pourquoi les religions n'aiment pas ou craignent les femmes. Mmh. Est-ce que, après toutes ces années d'études, vous avez compris pourquoi toutes les religions, les trois grandes religions monothéistes, ont tellement peur des femmes ?
Je crois que on pourrait amorcer 1000 explications, mais la plus importante d'entre elles, c'est tout simplement qu'elles représentent l'altérité. C'est-à-dire que faire de la place aux femmes dans tout système, c'est faire de la place à l'autre. Et donc, c'est menacer les frontières, tout simplement. Et donc, c'est une
passion politique, en réalité, qui est à l'œuvre. Quand on tient les femmes, voilà, à distance, ou quand on essaie de les contrôler, en réalité, on essaie de contrôler la zone liminale. On essaie de contrôler l'autre et la façon dont il risquerait de nous contaminer.
Les conservateurs juifs ne vous aiment pas, Delphine Horvilla.
Ce qui était le plus troublant pour moi, les premières années, c'était de percevoir que finalement, les messages les plus virulents, les résistances les plus fortes que je pouvais recevoir, venaient très souvent de femmes. Ce qui peut-être surprendra pas vos auditeurs, mais c'est vrai que il est troublant de voir que souvent les résistances les plus fortes contre l'avancée des femmes ou l'accès des femmes à certaines fonctions qui étaient réservées aux hommes pendant longtemps, finalement semblent être vécues de la façon la plus violente qui soit par des femmes qui, elles, se font les, entre guillemets, les pires gardiennes du temple. C'est vrai dans toutes les traditions religieuses.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est vrai aussi beaucoup de femmes
dans
au Maghreb
qui défendent les décisions.
Exactement.
Par exemple,
oui. Disent que c'est de la mère que passe le conservatisme, en fait. Pas tant du père.
Et on comprend. Je comprends très bien d'où ça vient, c'est qu'en réalité, il y a certaines femmes à qui on a dit « voilà ton domaine imparti, voilà ton domaine réservé », et l'accès d'une femme à des fonctions politiques ou à un pouvoir dans une hiérarchie religieuse remet en question le domaine désigné qui est le leur. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui, moi, j'entends moins les résistances. Alors, peut-être que je suis pas branchée sur les bons canaux, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui encouragent ou qui me soutiennent. Et...
Même les femmes.
Oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même... En fait, on vit dans un temps paradoxal où d'un côté, beaucoup de gens pensent que c'est dans l'ordre des choses que les femmes, par exemple, dans les religions, aient plus de place. Mais paradoxalement, ou simultanément, parce qu'on est dans un temps de repli identitaire, un temps où les fondamentalismes, on le vend en poupe, simultanément, on entend de plus en plus fort des voix qui s'y opposent. Donc on est finalement dans un entre-deux phénomène.
On demande à chaque femme de choisir un disque en lien avec l'idée de la femme puissante. Vous avez choisi quoi, vous ?
J'ai choisi une chanson de Karen Ann. En ce moment, j'écoute en boucle une de ses chansons de son dernier album. De nombreuses chansons parlent du couple et de l'amour. Et celle-ci, on a l'impression en l'écoutant qu'elle parle d'une séparation, d'un couple qui se déchire. Et quand on l'écoute, il y a comme un deuxième degré que je trouve très poétique. Elle parle en fait du conflit territorial entre Israël et les Palestiniens, peut-être. En tout cas, un conflit territorial qu'elle vient calquer sur une crise de couple. Et je trouve ça très juste, ce double sens.
Peut-être que j'ai tort, que je suis aveugle, que je dors, que je n'ai jamais eu l'esprit fort, que je t'ai vraiment foutu dehors. Peut-être que je suis naïve, que je suis sur la défensive, que je viens d'une autre rive, que je dois partir à la dérive. Quand je ne te suis pas à la lettre, tu m'accuses de ton mal-être. Il n'y a personne pour s'entremettre, tu veux me voir disparaître. Peut-être que je m'égare du mauvais côté de l'histoire, qu'il est temps de faire bande à part, que c'est foutu, qu'il est trop tard. Vu de l'extérieur, d'où le monde est voyeur, il n'y a ni grâce, ni cœur, ni horizon. Sous mon soleil trompeur, personne, hélas, ne pleure, ton île prison. Peut-être que cette terre dont tu te sens propriétaire est vraiment extraordinaire, car elle est tellement populaire. Peut-être que j'y suis, car autrefois on m'a tout pris, et que c'est ici qu'on m'a promis que je serai toujours à l'abri. Mais toi, tu veux ma peau, tu veux troubler mes idéaux, tu veux ton paradis là-haut, lorsque tu brûles mon drapeau. Peut-être que je t'entends, que je suis là, que je comprends, que je n'en peux plus d'y voir du son, que je suis surpassé et impuissant. Sous mon soleil trompeur,
C'était Keren Ann, Ton île prison.
Femme puissante sur France Inter.
Delphine Horviller, j'avais envie de vous faire entendre la voix d'une femme, d'une actrice américaine, une grande actrice américaine, déjà oscarisée, qui est aussi une femme engagée, engagée pour les femmes, et qui a 4 enfants. C'est Cate Blanchett. Je l'avais rencontrée au dernier Festival de Cannes et je lui avais demandé comment vous arrivez à gérer tout ça, votre carrière, vos 4 enfants, votre vie de femme engagée, votre vie amoureuse, comment vous faites pour réagir à ça? Elle m'avait répondu, je déteste cette question, parce que j'en ai assez. D'abord, on la pose jamais aux hommes. Et la deuxième réponse, c'est qu'en fait, je n'y arrive pas. Je suis comme toutes les femmes, je n'y arrive pas. Écoutez.
C'est en fait très ennuyeux. C'est extrêmement ennuyeux. Car la réponse ne peut être que la même chaque fois. Je n'y arrive absolument pas. Et chaque fois, on me pose cette même question. Comment tout faire? Comment tout mener à bien? Ça sépare les femmes de poser cette question.
Ask my husband.
Alors on fait comment pour élever 3 enfants, être rabbin, être une femme engagée, être dans les médias?
Je me reconnais tellement dans la réponse de Cate Blanchett qu'en fait ça fait du bien d'entendre ça. Moi j'ai l'impression aussi que ma seule réponse c'est que quand les gens me demandent comment tu fais, je dis je fais très mal. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression effectivement que je suis rattrapée, mais comme la plupart des femmes autour de moi, avoir la culpabilité de pas être au bon endroit au bon moment, d'être trop absente.
Pile vous dites ça. Alors là, je sais pas si c'est un signe. La porte s'ouvre de votre appartement et c'est quoi? C'est votre fille qui
rentre? Oui, je pense que c'est une de mes filles qui rentre à la maison.
Donc on est dans votre salon et là vient de rentrer votre fille. À quel âge?
6 ans.
Et ta maman, elle est quoi? Elle fait quoi comme métier?
Elle est rabbin.
Et ça veut dire quoi d'être rabbin?
Bah qui chante.
Elle est chanteuse en fait.
Elle chante en hébreu.
Ah oui? Et tu connais des chansons en hébreu toi?
Il n'y en a qu'une seule que je connais, mais...
Vas-y.
Vas-y. Mais je ne me rappelle plus trop des paroles.
Oh, bah non.
Bechem, Hachem, Eloé, Israël. Tu connais? Non, tu ne sais pas. Bon.
Dans votre salon, est-ce qu'il y a quelque chose qui montre que vous êtes rabbin? Je ne vois pas tellement de signes de religion. Il y a des jouets, des vélos d'enfants.
Poser les bougies là.
Les bougies, vous les posez là sur l'étagère? Au-dessus du poisson?
Oui.
Comment ils s'appellent les poissons?
Il y a Star Wars, Dark Vador et Yoda.
Yoda, d'accord. Donc au-dessus de Dark Vador, Yoda et Star Wars, il y a donc les bougies religieuses. C'est bien ça.
On a une collection de chandeliers ici de Hanukkah.
C'est quoi ça?
C'est des images de la bar mitzvah de mon frère.
Et c'était comment la bar mitzvah de ton frère?
Bien. Mais c'est maman qui a préparé tout.
Ouais, mais c'est normal parce qu'elle est rabbin.
Oui.
Tu connais d'autres enfants qui ont des mamans rabbins?
Non.
Et c'est bizarre, non?
Non, c'est pas très bizarre.
C'est normal?
Oui.
Et à part chanter, elle fait quoi comme rabbin?
Bah, elle écrit sur des feuilles. Elle signe des autographes.
Oui, elle signe des autographes. C'est votre travail, donc.
Et elle fait des livres.
Ah oui, d'accord. Donc elle, c'est sérieux, quand même. Tu veux devenir quoi quand tu seras grande?
Rabbin.
Ah ouais.
Incroyable.
Incroyable. La transmission.
Bon. Moi, j'ai l'impression de jongler comme je peux, d'être rattrapée très souvent par la culpabilité qui peut être, je sais pas quel est l'élément culturel, en plus de l'effet mère juive, qui fait que...
Vous êtes une mère juive?
En fait, je crois pas vraiment. Très souvent, vous savez, c'est ce cliché des mères juives qui collent à la peau de tellement de gens, cette idée que la mère juive, elle est incapable de laisser son enfant respirer. Vous savez, les célèbres blagues sur les blagues juives, enfin, sur les mères juives, il y en a des milliers, mais on dit que la mère juive, c'est celle qui dit à son fils, mets un pull parce que j'ai froid. Moi, je crois pas être comme ça. Je crois pas être une mère particulièrement inquiète, mais je suis parfois, c'est vrai, rattrapée par la culpabilité.
Comment on la gère, la culpabilité?
On la gérerait mieux, effectivement, s'il y avait pas tout un entourage qui, en permanence, vous ramène à cela. Moi, j'ai l'impression que finalement, à chaque fois qu'on me pose la question, c'est comme si on me remettait un jeton dans la machine où vous faites comme vous pouvez pour le vivre pas trop mal, ou en tout cas, pour essayer
de fonctionner au mieux et d'être le plus présente possible pour les vôtres. Et il y a toujours des gens qui, par ces questions, viennent suggérer que quoi que vous fassiez, ce ne sera pas suffisant. Et effectivement, il y a une vraie injustice, que cette question, elle n'est pas posée au conjoint, elle n'est pas posée au papa, encore aujourd'hui. Donc on reste encore prisonnier de ça.
La célébrité, ça apporte quoi ? Du plaisir ou des soucis ?
Alors moi je me vis pas du tout ça va vous paraître je me vis pas du tout comme
la notoriété comme célèbre,
oui, parce que voilà j'ai l'impression que
bon on vous arrête pas dans la rue
d'où il arrive que dans la rue des gens me reconnaissent mais pas j'ai pas du tout l'impression de vivre comme peut-être vivent d'autres personnes vraiment les gens s'arrêtent pas dans la rue pour faire des selfies avec moi. Il arrive que les gens me reconnaissent, qu'on me demande quelque chose dans la rue. Ce qui est compliqué dans mon métier peut-être, c'est que quand vous êtes rabbin, vous êtes le rabbin des gens même quand vous n'êtes pas à la synagogue. C'est-à-dire que quand les gens me croisent, les gens qui fréquentent ma synagogue, me croisent dans la rue avec mes enfants ou en train de faire des courses, je reste leur rabbin. C'est-à-dire que je suis toujours de leur point de vue en fonction. Il n'y a pas de sphère privée et de sphère publique dans le rabbinat. Ça. Et ça, c'est potentiellement liberticide parce que c'est comme si tout ce que vous vivez au quotidien, vous deviez d'incarner votre parole. C'est-à-dire que la façon dont vous allez parler à votre conjoint ou à vos enfants dans la rue devait être en permanence une démonstration d'une sagesse qu'on vous prête. Et la vie, c'est pas ça, en réalité. Voilà.
On peut pas être sage tout le temps.
Et puis, vous savez, les Américains, ils ont une très belle expression. Ils disent, il faut s'efforcer de walk the talk, d'être capable de marcher ses paroles. Mais c'est jamais complètement possible. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous enseignez, il y a ce que vous prêchez, il y a ce que vous dites. Et puis, ce que vous faites, c'est jamais complètement à l'image de ça. Et tant mieux.
Est-ce que vous conseillez, Delphine Horviller, différemment les hommes et les femmes? Et est-ce que les angoisses des hommes et des femmes sont différentes? Est-ce que vous pouvez les genrer ou pas du tout?
Non, pas vraiment. J'ai juste l'impression que, sans aucun doute, quand les gens, hommes ou femmes, viennent voir une femme rabbin, souvent ils ont l'attente d'un autre type de discours, qui parfois d'ailleurs est nourri de certains clichés de genre. C'est-à-dire que les gens s'imaginent que parce que je suis une femme rabbin, ils vont pouvoir attendre de moi une parole beaucoup plus empathique et douce et à l'écoute. Et c'est pas toujours vrai. Moi, je connais des hommes rabbins très empathiques et des femmes rabbins qui le sont pas du tout ou moins.
Marrant comme ces clichés ont la vie dure, hein, ouais. De s'imaginer que les femmes sont plus tendres, plus empathiques, moins violentes, alors que non.
Alors que non, et que même bien souvent, pour être là où elles doivent être, elles ont dû au contraire faire preuve d'une véritable force et parfois d'une
dureté.
Dureté ou peut-être même d'une forme d'indifférence pour pouvoir aller un peu plus loin là où elles sont. Donc c'est des clichés avec lesquels il faut composer. Mais j'ai pas l'impression que les hommes et les femmes viennent nécessairement avec des demandes si différentes aujourd'hui.
Quelques questions de fin pour terminer. Ne réfléchissez pas, juste comme ça, une réponse spontanée. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ?
Je crois que je choisirais liberté.
Qu'est-ce qui vous fait peur ?
De me tromper de chemin, d'avoir des regrets, de me dire qu'il y a des choses que j'aurais pu faire et que la peur m'a empêché d'ouvrir certaines portes.
Voilà. Avouez-nous une très mauvaise pensée.
Vous n'avez que des bonnes pensées.
Vous n'êtes que bonté et bienveillance. Vous n'avez pas des jalousies, des mauvaises pensées parfois.
Si, sans aucun doute. Mais là, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Je sais pas. Franchement, je suis désolée de vous foutre en l'air cette séquence. Mais alors là, vraiment, je suis très mauvaise à ça. Je sais pas. Je suis pas bonne du tout à ça.
Quelle femme vous auriez aimé rencontrer?
Si elles ont existé, certaines femmes du texte biblique, certaines femmes toutes les femmes qui ont réussi à changer l'histoire, à changer le destin, à ruser, à faire des... Voilà,
Vous avez un modèle biblique de femme ?
Oui, il y en a plusieurs, mais il y a un modèle biblique que j'aime beaucoup, qui est une femme qui s'appelle Rebecca, qui est donc la femme d'Isaac, et qui est une grande manipulatrice, qui est quelqu'un qui, en fait, prend son destin en main, arrive à changer l'histoire, décide quel est le fils parmi ses enfants qui va hériter. Elle a une espèce
elle
de
a des mauvaises pensées.
Comme tout le monde, elle se met en route, en tout cas, de son monde de naissance pour aller vers un ailleurs. Et voilà, moi j'aime bien ce personnage un peu rusé, malin.
Merci Delphine Horviller.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir reçus chez vous, à la
maison.
Léa,
merci.
Merci
de votre présence.
Tête à demi penchée, faisant une moue dubitative, rêve dans le semi.
Vainqueur au combat, même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tremper ses lèvres, ou tempérer la fièvre. Sur ma clavicule, légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps, les bras m'en tombent. Mais tantôt, je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'adonner à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tu voulais la mer, donc je te l'ai donnée. Les draps trempés, c'est pas que pour la scéno. Moi je suis polisson. Tu me regardes en souriant, le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te connaîtrai, j'ai même espoir qu'on se reconnecte.
C'était À l'horizontale d'Aloïse Sauvage, à l'instant sur France Inter. Merci à Delphine Horviller. Cette émission était préparée par Outi Schraniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et Marie-Elisabeth Jacquet. À la prise de son, Jean-André Gianecchini. À la réalisation, Sonia Leglen. Bel été à tous.